bien désaltérant. Bonsoir et bienvenue à tous en direct du local Mezzanine d'Aquilonnette. Vous êtes en direct sur Radio Girol. D'ailleurs, on peut entendre ce direct parce qu'on entend tout le bordel du peu de giroliens qu'il y a derrière. Et nous sommes ensemble pour une petite heure autour des cultures libres. Alors, avec moi, j'ai Simage. Bonsoir, Simage.
Bonsoir.
Voilà.
C'est un peu fort ?
C'était un peu fort, oui.
Mais ma voix est tellement agréable à écouter.
C'est un peu ça.
Même trop fort.
Donc, moi, c'est mieux quand je prends le micro dans le bon sens. Nous avons Duponin. Bonsoir, Duponin.
Bonsoir à tous.
Et nous avons Lucas.
Hello.
Alors, ce soir, au programme, nous avons du coup l'agenda, comme d'habitude. Et sachant que Simage est là ce soir, parce que quand c'est pas Girol qui est absent au complet pour faire Radio Girol, c'est Simage qui est absente. Non, ce n'est pas un reproche.
Non, c'est pas.
Mais là, du coup, elle va pouvoir reprendre sa place pour l'agenda. Nous allons parler du coup du règlement de RGPD, encore une fois, de grosses atteintes à la vie privée faites par des sociétés de tracking sans scrupules qui, à mon avis, pervertissent l'esprit même de ce qu'est Internet. Nous allons parler de jeux vidéo, parce que ça bouge un peu côté jeux vidéo sous Linux. Et voilà, côté musique, on a une playlist, on a quelques morceaux qui ont été sélectionné par Simage, parce que comme elle revient, elle nous renvoie de la musique, on va pas repasser des trucs qu'on a déjà passé
150 fois.
Voilà.
Ouais, en même temps, j'étais un peu feignasse. Je suis allée sur le site de Ziklibrambib et je me suis pas embêtée.
Voilà, mais en même temps, c'est notre Ziklibrambib, c'est notre partenaire musical, notre fournisseur de musique. Pour rappel, c'est l'association, comment elle s'appelle, l'association
ASIM.
L'ASIM, qui est
une association. Ce sont des bibliothécaires.
Médiathécaires aussi.
Ouais, bah c'est pareil, médiathécaire. Quand tu fais de la musique, ça devient médiathèque.
Voilà, qui propose sur leur site une sélection de musique libre, ou du moins sous licence permissive. Et du coup, c'est notre abreuvoir à musique.
Eux et Dogmazic, c'est nos amis.
Et Dogmazic aussi, c'est nos amis. Mais ça depuis longtemps.
Mm.
Alors, côté agenda.
C'est à moi.
C'est à toi.
Alors, je vais faire les simples d'abord. Alors, les ateliers. La bulle nous fait le samedi 16 novembre. C'est bientôt. Je me demande si ce n'est pas samedi qui vient.
Si, c'est samedi qui vient.
C'est samedi qui vient, oui, c'est ça. De 10h à 13h à la médiathèque de Mérignac. Un samedi du libre qui est sur le thème logiciel libre pour les enfants, pour les kids. Parce qu'ils sont jeunes à la bulle, ils parlent jeunes. Ils disent les kids. Voilà. Ensuite, ils nous font aussi le samedi 7 décembre. À libre ouvert de 10h à 13h, et cette fois-ci, ça sera à la bibliothèque Flora Tristan à Bordeaux. Donc, si je ne me trompe pas, c'est celle qui est de l'autre côté de la gare, dans.
Quartier Belsier.
Voilà. Et ça sera une install party, là, à libre ouvert. Voilà pour la bulle pour l'instant, mais à la fin de mon agenda, je reviendrai sur la bulle. On passe à Unbi. Unbi fait sa permanence, comme d'habitude, à l'école élémentaire du Burk. Le premier vendredi du mois. Et là, c'est marrant, je n'ai pas mis la date. J'ai mis la permanence à 18h30, mais je n'ai pas mis la date. Mais c'est le premier vendredi de décembre. Alors, si quelqu'un a un agenda sous le coude...
De suite, le premier vendredi, ce sera le vendredi 6 décembre.
Voilà, ça devrait être ça. À confirmer sur leur site, mais je crois bien que c'est ça. Et là, je ne peux pas aller sur leur site tout de suite. Ensuite, Aquilnet, pas de permanence mardi prochain, parce qu'il y a la collégiale d'Aquilnet. Donc, il n'y aura pas de permanence. Par contre, le mardi suivant, oui. Et les portes ouvertes d'Aquilnet, c'est toujours le premier mardi du mois. Donc, ça sera le 3 décembre.
Il y a peut-être la collégiale, donc il n'y a pas de permanence. Mais les gens peuvent y assister librement.
Oui, alors les adhérents.
Mais oui, les adhérents.
Les adhérents peuvent y assister. Oui. Et oui, c'est pour ça que je dis bien. Que je ne le dis pas. Enfin bon. La Cubale, nos amis Wikipédiens bordelais, vont venir chez moi. Ils viennent au Centre socio-culturel d'art et loisirs d'Arlac. Le jeudi 21 novembre, je suis content. Merci les gars de venir nous voir. Ils viennent faire une petite présentation de Wikipédia et surtout de comment on contribue à Wikipédia et nous parler de ce qu'ils font pendant les Wikipermanences à la médiathèque Mériadec. C'est parce qu'ils font un truc spécial là-bas. Ils utilisent les fonds patrimoniaux de la bibliothèque Mériadec pour contribuer à Wikipédia. Et ils en profitent du coup pour numériser les fonds patrimoniaux de Wikipédia. De la bibliothèque, pardon. Donc il y a un côté archiviste, on va dire, comme ça, où ils numérisent. Et il y a le fait de s'en servir pour nourrir Wikipédia. Bon, là je vous dis ça vite fait, ils sont plus à même de vous expliquer que moi. Donc soit vous venez le jeudi 21 novembre à 14h. Bon, je sais, c'est un jeudi. Donc, il n'y a pas grand monde de dispo un jeudi 21 novembre. Mais ça tombe bien parce que c'est sur inscription. Il y a un nombre de places limité. Sinon, vous allez à leur wiki permanence. Ils vous expliqueront tout ça aussi très bien. Et la prochaine wiki permanence, c'est le samedi 30 novembre à 10h30, de 10h30 à midi, à Mériadec, donc à la bibliothèque Mériadec. Et ça sera tout pour l'année 2019 pour la Cubal. Après, ils reprennent en janvier. Voilà, voilà. OSM, j'en parle pas beaucoup parce que c'est toujours, ils se retrouvent entre contributeurs d'OpenStreetMap tous les seconds lundis du mois à la mezzanine à 19h.
Donc chez Aquilonet.
Chez Aquilonet, toujours.
Il n'a pas eu lieu cette semaine, mais qui aura lieu la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises.
Mais je ne savais pas. D'accord. À vérifier sur leur site, ça se trouve assez facilement. Et puis de toute façon, j'ai mis les liens sur les podcasts de la radio. Ils y sont tous les mois ou presque, sauf quand j'ai eu la flemme de les remettre. Et
il est temps de revenir à la bulle alors.
Et oui, tu trouves que je m'éternise ?
Non, pas du tout.
J'étais tellement contente d'avoir la Cuba au Centre socioculturel d'Arlac. Alors la bulle a 20 ans en 2019, a eu 20 ans en 2019. Alors je ne sais pas le mois, je ne sais pas l'heure, je ne sais pas etc. Mais en tout cas, ils ont eu 20 ans cette année. Donc la bulle, c'est l'association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres, la plus ancienne de Bordeaux. On ne dit pas les plus vieux, mais...
Et c'est surtout, c'est le groupement d'utilisateurs de logiciels libres, l'un des plus anciens en France, qui est à l'origine des rencontres mondiales du logiciel libre. Donc ce n'est pas rien.
Non, ce n'est pas rien. Bon, mais du coup, ils fêtent ça un petit peu avec les copains en s'associant à la diffusion du film LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse, qui sera diffusé le 25 novembre au festival Le Cinéma de Bègles à 20h. Je me suis perdue toute seule là, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire qu'il y a une autre séance de LOL le 24 la veille à Saint-Médard-en-Jal à 18h au Cinéma L'Étoile. Mais si on veut la présence de la bulle, c'est le 25.
Avec la présence du réalisateur.
Dans les deux cas, par contre. Voilà. Les auteurs et réalisateurs seront présents le 24 et le 25, si j'ai bien tout compris. Et voilà, c'est déjà sympa.
Et qui n'a pas été signalé d'ailleurs à l'agenda du Libre, mais ce week-end a lieu le Capitole du Libre à Toulouse.
C'est pas signalé sur l'agenda du Libre ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'en as pas parlé.
Moi, oui. J'en parle pas. Ça se passe à Toulouse. Nous faisons à Radio Girolles l'agenda du Libre à Bordeaux dans la métropole bordelaise.
C'est un cas un peu exceptionnel puisque nous allons avoir la présence d'un envoyé spécial pour la première fois depuis Radio Girolles au Capitole du Libre, n'est-ce pas, Antonin
Dupont-Aignan.
Bonjour et bienvenue sur Dupont-Aignan TV. Nous venons ici à Capitole du Libre.
Donc, Dupont-Aignan vous promet pour la prochaine radio des interviews ou quelque chose, un reportage sur
le Capitole du Libre,
des intervenants, les conférences. J'essaierai de capter le maximum de choses à diffuser pour que ça soit intéressant. J'espère.
Bon,
si vous êtes au Capitole du Libre et que vous voyez un monsieur qui se présente en disant « Bonjour, je suis Dupont-Aignan », faites-lui un bon accueil, il est gentil, il fait peur, mais il est gentil. Et
je ne mords pas.
Et vous savez que Dupont-Aignan, ça rime avec câlin.
Oui, j'aime beaucoup les câlins. Bon, tout ce que j'avais à dire.
En attendant, nous allons passer à une petite pause, non pas publicitaire, vous êtes sur Radio Girolles, mais musicale, musique libre. Et on se retrouvera, nous, juste après, pour parler d'automobile. Alors c'est pas tous les jours qu'on parle d'automobile sur Radio Girolles, mais là, ce sera le cas. En attendant, on vous propose une musique, c'est Delicatessen, le groupe. Le morceau s'appelle Die Rays, de l'album d'Airaze, éponyme de, du coup. C'est sous licence. Alors attendez, laissez-moi voir les fiches. Non, il n'y a pas de licence.
J'ai pas mis la licence, c'est le seul, j'ai oublié. Oh,
ça va être du CC by NCSA, donc Creative Commons, je pense, comme tout le reste. Attendez, on va retrouver.
Ça rapidement.
Voilà, c'est ça. By NCSA. Pas de travaux dérivés. Oui. Non, c'est pardon, excusez-moi, c'est non commercial et partage à l'identique. Les travaux dérivés sont autorisés. Et nous, on se retrouve juste après. Donc, c'est Délicat Session d'Airaze sur Radio Libre.
Radio Station Essence, c'est trop bien. Elle vous fait plein d'amour. J'écoute de la musique qui est dans sa radio.
Et nous voilà de retour en direct du local La Mezzanine d'Aquilonnet. Vous nous écoutez aussi du coup sur Radio Station Essence. Un petit coucou à Guzel qui nous écoutera peut-être en podcast. Et un grand merci pour nous accueillir. Ou vous nous écoutez directement sur notre site internet https://girol.org. Comme je le disais avant la pause musicale, nous allons parler de voitures. Et là où c'est étonnant, c'est que c'est Simage qui va nous en parler.
Ouais, Simage, elle adore les voitures, c'est hyper bien connu.
C'est ça.
Les voitures, c'est son dada, c'est pour ça qu'elle en a pas. Mais à un moment donné, je m'étais intéressée aux voitures sous licence libre. Je sais pas pourquoi, ça m'avait pris comme ça. Et plein de trucs, de toute façon, je cherchais tous les trucs qui se construisaient sous licence libre. Ou ce qu'il y avait des plans, etc. Bon, en fait, j'ai écouté le Décryptualité du 30 septembre. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite émission de l'April, un peu courte, qui a lieu, je ne sais pas tous les combien, c'est un peu aléatoire, je crois. En tout cas, ça se retrouve sur leur site. Et celui du 30 septembre, ils ont parlé d'un article sur motorsport.nextgen-auto.com. où on apprend que dans la Formule 1, les pièces, des pièces pourraient devenir en open source. Et c'est une réflexion par rapport à la standardisation, qu'ils ont eu par rapport à la standardisation. Je vais essayer d'être clair, mais ça va être compliqué, mais je vous remets l'article demain. Sinon, allez écouter le décryptualité, peut-être qu'ils sont mieux que moi, je ne me rappelle plus. C'était le 30 septembre. En fait, quelques constructeurs voulaient que leurs pièces soient standard.
Oui.
Ouais, bon, si c'est pas très français, j'espère que vous m'avez compris quand même. Et d'autres disaient que si on standardisait ces pièces-là, bah, le problème, c'est qu'il n'y aurait plus d'innovation et que la Formule 1, quand même, l'idée, c'est d'innover dans le secteur de la mécanique auto. Donc, ils ont réfléchi à l'idée de mettre des choses en open source, de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès aux spécifications des pièces, que ceux qui voulaient copier pouvaient copier et que ceux qui voulaient innover bah, pouvaient innover aussi, prendre les specs et en rajouter. Je ne sais pas comment de la standardisation ils sont arrivés là, mais en tout cas, moi, en partant de là, je suis arrivée aux voitures, je suis restée sur les voitures. J'aurais pu partir sur la standardisation, mais il y a tellement à dire sur la standardisation que j'ai préféré les voitures, c'était plus simple. Donc je suis repartie chercher la petite voiture que j'avais vue il y a des années, open source, qui était un travail d'une entreprise italienne, qui s'appelait, que je me rappelle, j'ai oublié le nom de l'entreprise, Open quelque chose. Je vais essayer de retrouver rapidement parce que je sais que j'ai l'information quelque part. Et la voiture s'appelait Tabby, si je ne me trompe pas. Et bien Tabby, en fait, elle n'est pas très loin. Et je dois avouer que ça... Enfin bon, je vais finir ma phrase à un moment donné, mais pas tout de suite. Donc Renault s'est associé avec cette entreprise qui du coup a changé de nom. Et à partir de leur modèle, ils ont créé la Twizy. Et en même temps, donc je ne sais pas si vous connaissez la Twizy ou le Twizy, je ne sais pas comment on dit. Enfin, je dis là parce que c'est une voiture, mais ça se trouve c'est le Twizy. En fait, c'est une voiture électrique, biplace, je crois, ou une place avec un coffre des fois. Mais il y a un site qui s'appelle Open Motors où on a les plans, si je ne me trompe pas, du Twizy. En tout cas, plein de possibilités de construire des voitures d'avoir les plans, pardon, d'avoir des sources sur des voitures. Yayo qui est en train de regarder.
Oui, je suis sur le site.
Voilà.
Du coup, effectivement.
Non, parce que je reste un peu incompétente.
Le site, du moins, le site s'appelle openmotors.co et effectivement, on voit que c'est largement chapeauté par Renault. On y voit effectivement la voiture, la fameuse Twizy, l'espèce de voiture électrique de place que l'on voit beaucoup dans les métropoles françaises, qui ressemble d'ailleurs à une espèce de scooter à quatre roues avec un petit habitacle.
C'était anciennement OS Vehicle. Enfin, vous m'avez compris, Open Motors, qui faisait la Tabby, du coup. Et voilà. Donc, ils sont partenaires avec le groupe Renault. Et je dis partenaire parce que je lis un site en anglais, désolé. Voilà. Ils ont fait donc une plateforme de...
Quand on est sur le site effectivement de Open Motors, on tombe dans Product, on tombe sur Complete Electric Vehicle Based on Tabby Evo. Et effectivement, ça a l'air d'être une plateforme. En fait, c'est ça qui fait assez bizarre dans le monde de l'automobile, c'est qu'on retrouve le mot plateforme, en fait, le Tabby Platform. C'est assez intéressant.
C'est rigolo.
Ouais, donc effectivement, on est dans quelque chose d'assez... On a déjà parlé de véhicules open source, notamment... je me rappelle plus exactement le nom, mais de quelque chose qui était proposé par le pôle Akinectic ici en Aquitaine.
Ah oui.
Et là, on a quelque chose d'un peu plus concret. Enfin, il me semble.
En tout cas, ça a l'air assez abouti. Et alors, j'ai cherché quand même s'il y avait d'autres trucs parce qu'au départ, j'étais repartie sur ma Tabby, tout ça. Et je suis tombée aussi sur le Rally Fighter. Alors là, par contre, ils en parlent sur Wikipédia, mais c'est pas très clair sur le site de la voiture. Donc, on ne voit pas trop les rapports à la licence. Alors, si ça se trouve, parce que ça aurait été un projet qui aurait été financé avec un financement participatif. Et ça se trouve, avec le financement, ils ont peut-être fait leur première voiture comme ça, sous licence libre, parce que. Mais n'empêche que les plans ne sont pas accessibles. Je ne sais pas si tu es sur leur site, là.
Si, je suis sur le site, du coup, de Anytime Auto Works, du coup, qui parle du Rally Fighter.
Ouais.
Mais ils en parlent pour des choses qui ont été dans les films ou des choses comme ça, mais
ils parlent pas trop de ce truc-là. Et a priori, l'article date de 2014 donc c'est pas dit que ce soit encore d'actualité. Mais je trouvais ça rigolo Il y a eu d'autres volontés de faire des trucs en
apparemment,
en
effectivement,
libre.
Quand on est sur Wikipédia, il y a effectivement, si je vous lis l'article Rally Fighter, et c'est assez explicite, la Rally Fighter est un modèle d'automobile conçu par Local Motors. Elle a la particularité d'être sous licence Creative Commons by NCSA. Donc non commercial, partage à l'identique, donc modifiable, et qui a été limitée, la production a été limitée à 2000 exemplaires.
Mais bon, l'article lui-même donc, a été écrit en 2014, et là il a un petit tag pour dire que cet article est une ébauche et qu'il n'est pas forcément très complet. Donc à revoir sans doute. J'avais autre chose sous le coude là sur les voitures et j'ai oublié. C'est malin. Ah oui, non, le truc, c'est que je me demandais pourquoi on n'avait pas plus de voitures aussi qui auraient des carburants un peu différents. Parce que je sais qu'il existe des voitures qui roulent à l'huile de friture.
Oui.
Et je suis assez étonnée de ne pas être tombée plus facilement sur autre chose que des voitures électriques. Là, je sais même pas. La Rally Fighter, je ne pense pas qu'elle soit électrique,
non,
vu le bousin.
Non, et puis 430 chevaux.
Ouais, ça serait compliqué. Hein.
Je pense que.
Elle tient 10 minutes. Elle roule 10 minutes.
Ceci, on a les Tesla qui. Je ne sais pas.
Oui.
Non, mais alors par contre, ça, je pense que j'ai une réponse. Je pense que les gens qui conçoivent une voiture en open source. Sont déjà des gens qui sont, je dirais, sensibilisés aux problèmes d'écologie, aux carburants et aux énergies fossiles, et donc qui cherchent une alternative effectivement, qui vont forcément dans l'alternative et qui vont, je pense, éviter d'utiliser des moteurs thermiques, même si la Rally Fighter apparaît être une voiture en Creative Commons. Je suis sur la page en anglais, là, du coup.
Elle est un peu plus complète.
Et peut-être que ça peut s'expliquer aussi, parce que fabriquer un moteur à explosion, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement complexe. Même si un moteur à explosion, est dans son fonctionnement de base, est simple, maintenant, on y rajoute forcément des calculateurs, des choses qui sont très, très complexes et qui nécessitent...
Oui, mais pour l'huile de friture, alors ?
C'est des moteurs diesel.
Ah, les moteurs à huile de friture ?
C'est des moteurs diesel.
D'accord.
Mais contre, effectivement, c'est extrêmement polluant. Enfin, c'est des moteurs qui sont très polluants.
D'accord.
Comme certains moteurs de bateau tournés à ce qu'on appelle à l'huile lourde. En gros, tu pouvais faire tourner ton moteur à l'huile de vidange.
Mais, d'accord.
Alors, je dis bien en gros, c'est pas ça du tout, mais c'est
très... C'est là qu'on voit mes compétences.
C'est ce qu'ils appellent l'huile lourde, c'est du pétrole non raffiné qui est très huileux, mais qui est extrêmement polluant aussi.
D'accord. Bon, voilà. Donc, voilà. Si vous aimez les voitures électriques et que vous avez envie de bidouiller, alors après, c'est toujours le même problème que pour les gens qui bidouillent leur moto, etc., qui construisent leur moto eux-mêmes. Si on veut rouler ensuite sur route avec sa voiture créée par soi-même, il faut bien sûr la faire homologuer. Donc là, il y a des spécifications qu'il faut voir auprès des services compétents de l'État. Je ne saurais lesquels. Mais les assureurs n'assureront pas votre voiture si elle n'est pas homologuée.
Il faut passer aux mines.
Aux mines ?
Oui, c'est un service qui vérifie que ton véhicule soit apte
à aller sur la route.
C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de choses au niveau des États-Unis, notamment la Rally Fighter, parce qu'ils n'ont pas ça aux États-Unis. Tu peux prendre une voiture, la désosser, tu gardes que le châssis, ou qu'ils ont ce qu'ils appellent les hot rods. Tu prends une voiture, tu gardes le châssis, un peu la carrosserie, tu mets un moteur beaucoup plus puissant, tu changes tout, mais ta voiture, tu peux quand même la faire rouler. Ici, il faut que tu passes par les mines et qui sont plutôt très, très regardants.
Oui, je sais que pour les motos, enfin, j'ai des copains bricoleurs de motos qui aiment fabriquer leurs motos eux-mêmes, ou les mobilettes, a priori c'est plus simple. Il n'empêche que réussir à faire homologuer sa moto, c'est pas simple par contre.
Et c'est
dommage parce que j'ai vu des trucs très rigolos, oui.
En même temps, le bon côté des choses, c'est que si tu dois faire homologuer ta voiture, c'est qu'elle respecte un certain standard de qualité. C'est sûr que, effectivement.
Oui, oui, mais c'est vrai que j'ai vu des créations. J'avais un copain quand j'étais plus jeune qui s'amusait à faire des bicyclettes avec des rotos. Ça serait plus compliqué, j'imagine. Après, rien n'empêche de les utiliser sur des circuits, par contre. Je sais qu'on a le droit d'utiliser des créations.
Oui, bien sûr, sur circuit, mais sur la route. Alors, je reviens juste, effectivement, tu disais la Rally Fighter, c'est un moteur General Motors un V8 de 6,2 litres. Je ne sais pas si vous vous imaginez la cylindrée, c'est quand même relativement énorme. Pour info, maintenant, les voitures, une voiture diesel standard fait 1 litre. Là, on a un moteur qui fait 6,2 litres, qui doit consommer un bras.
Bon, voilà, elle sert au cinéma.
Et elle sert au cinéma, voilà.
Après, si, je crois que j'ai vu sur leur site que des gens l'achètent pour aller faire des rallyes
oui.
sur des trucs horribles comme le Paris-Dakar. D'ailleurs... Ça n'existe plus, le Paris-Dakar.
C'est d'ailleurs pour ça que je suppose qu'elle s'appelle la Rally Fighter.
Ouais. Bon. Et vous pouvez la voir si j'ai, dans leur pub sur leur site, enfin dans leur pub, dans leur promotion sur leur site. A priori, elle a été dans le film Fast and Furious.
Oui.
Voilà. Bon, je vous mettrai les liens de toute façon de tout ça. Et on va pouvoir passer à autre chose parce que
c'est ça.
Ça nous passionne pas plus que ça, les voitures.
Exactement.
Même, mais bon.
On va faire une autre petite pause musicale. Je vous propose Sona Youth, pardon. Le morceau s'appelle Percentages, de l'album Death sur Radio Girol. C'est un morceau très très court. C'est aussi en Creative Commons. La licence exacte, c'est Creative Commons.
Je te la trouve.
By NCSA, voilà. Non-commercial partage à l'identique, mais on peut faire des travaux dérivés. Et nous, on se retrouve juste après pour parler RGPD. Avec
un
toujours
tout
toi.
Petit peu.
Un tout petit peu. Alors, il va y avoir un tout petit peu avec toi et il y aura aussi un tout petit peu avec Duponin. En attendant, c'est Sona Youth, Percentages sur Radio Girol.
Listen to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et nous voilà de retour. On va juste se lever tous ensemble, là, tous les quatre. On va aller foutre un grand coup de pied aux fesses à toi, nous, qui, en fait, nous allume la radio derrière. Donc, on a un truc horrible parce que quand vous nous écoutez, en fait, ce qu'on a dit est déjà passé depuis 2-3 minutes. Parce que, bah, y a un temps de latence, forcément. Et là, il nous allume la radio derrière, on entend ça et c'est juste insupportable. Toi, nous, tu es insupportable. Tu n'es pas sortable. Non, ce n'est pas. C'est pas possible. Bon, trêve de plaisanterie. Vous nous écoutez toujours en direct du local d'Aquilonnette, dit la mezzanine, juste en dessous du data center associatif. Et nous allons parler du règlement européen de protection des données privées. Vous savez, il est entré en vigueur normalement il y a plus d'un an. Et Simage va nous parler de. Alors, le titre est plutôt mystérieux. RGPD plus pair à pair. Ah, si. Oui, je crois que je n'ai pas allumé ton micro. Voilà.
On m'a perdu. J'avais plein de trucs à dire. En fait, je suis tombée sur cet article, je ne sais plus comment. Bon, on s'en fiche. Donc, c'est sur Next Impact. Une collecte d'IP opérée sur les réseaux peer-to-peer par une société de défense est-elle compatible avec le règlement européen, demande-t-il. Donc, c'est en train de se juger. En fait, c'est une société qui détient des droits sur des films porno édités aux États-Unis, qui a collecté des adresses IP parce que elle soupçonnait des abonnés donc d'avoir téléchargé en peer-to-peer des fichiers issus de son catalogue. D'accord.
La pornographie a toujours de l'avance.
Donc l'entreprise a réclamé l'identité de ses abonnés aux fournisseurs d'accès Internet puisqu'ils avaient les adresses IP, etc., qui a refusé de les donner. Et blablabla, je me suis perdue dans ma réflexion, tout ça. Donc, ils sont partis en justice. Et en fait, la question qui se pose là par rapport au RGPD, c'est est-ce qu'ils ont le droit de collecter ces adresses IP alors que c'est une donnée personnelle? Et du coup, sans le consentement des internautes, puisqu'on se doute bien qu'ils n'ont pas donné leur consentement dans ce cas-là. Mais du coup, se posent des questions. Bah, si après tout, ils font quelque chose d'illégal, oui, mais qui a le droit de collecter ces données-là? Est-ce que c'est cette entreprise? Parce qu'après tout, c'est dans son bon, comment dire, dans son bon droit, on va dire, d'aller
de protéger sa propriété intellectuelle.
Merci. Ouais, je suis tellement pas d'accord avec cette idée-là que j'arrive pas à trouver les mots pour aller là-dessus. Donc ça. Et puis l'autre problème, c'est que le peer-to-peer, en fait, pendant à un moment donné du téléchargement, vous avez pas l'œuvre en entier, l'objet en entier. Si on peut parler d'œuvre, on reviendra pas sur, on discutera pas de ce sujet-là. Donc vous avez que des bouts du film ou de la série, enfin de l'objet. Donc, est-ce que tant que vous avez des bouts, est-ce que vous êtes dans l'illégalité? Et du coup, est-ce que l'entreprise a le droit de récupérer vos adresses IP? Et dans tous les cas, on pourrait dire, pourquoi pas récupérer l'adresse IP? Mais peut-être pas cette entreprise. Peut-être une société ou la police, ou voilà, qui, du coup, parce qu'ils sont dans l'illégalité, ok, on récupère leur adresse IP, mais ça peut pas être n'importe qui.
Est-ce qu'il faut se faire justice soi-même? C'est un peu, ça revient à se faire justice soi-même, à collecter ça. Soi-même les voilà. Mais c'est assez drôle, du coup, ça soulève le paradoxe en te disant, bon, d'accord, je suis une société qui est là pour traquer ceux qui utilisent ma propriété intellectuelle, à savoir du contenu pornographique, et il faudrait presque que la société de collecte demande, fasse une pop-up, façon pop-up que l'on voit apparaître partout sur les sites internet, êtes-vous d'accord pour que l'on collecte votre adresse IP?
Êtes-vous d'accord pour avoir un cookie? Ça serait encore mieux, ils pourraient mettre un cookie juste pour rester présent sur l'ordi et dire...
Pour qu'on puisse venir vous chercher, voilà, et vous faire payer les amendes.
C'est lui.
Comme quoi, les choses gratuites, les petits bonbons gratuits, c'est toujours une mauvaise chose.
Quoi?
Les petits bonbons gratuits, bah, les petits cookies.
Ah oui, c'est vrai, les petits gâteaux gratuits.
Les candies.
Faut faire attention. Donc voilà, c'était une question qui m'a intéressée, en fait, plutôt par rapport à... Ben voilà, je me suis perdue. C'est pas grave, ça m'a intéressé à un moment donné cette question, et c'était pas grâce au porno.
Non, mais c'est assez intéressant du coup comme approche, et comme quoi, suivant ce qui pourrait être dit lors de cette, à l'issue de cette, comment dire,
de ce jugement,
de ce jugement,
quand on verra le jugement.
Voilà, c'est que comment ça va s'appliquer à la France, qui avec Adopi, notamment la fameuse boîte de Thierry Lhermitte qui collecte les adresses IP. Je me rappelle plus, TSM, enfin bon.
Ah, me demande pas.
Qui collecte pour la réponse graduée, qui collecte des adresses IP, effectivement, comment ça va se passer?
Ah, c'était pas complètement idiot, alors, mon article.
Non, pas du tout. Non, non, c'est pas idiot du tout. Ça peut être justement intéressant. Et le cas se présente parce que la société est externe en plus à l'Union européenne, mais là, dans ce cas-là, ça pourrait être assez intéressant.
Là, c'est une entreprise chypriote.
Voilà.
Qui a collecté les adresses.
La boîte de Thierry Lhermitte, dont j'ai vaguement oublié le nom, par exemple, collecte les adresses IP, mais elle n'a pas reçu mon accord pour collecter mon adresse IP dans le cas où, effectivement, je téléchargeais en peer-to-peer une œuvre pour laquelle ils ont été mandatés.
Ah oui, il y avait une autre question aussi, c'était le fait que tu repartages, parce que encore quand tu reçois, tu n'es pas encore dans
l'illégalité.
C'est-à-dire que c'est le receleur qui est dans l'illégalité. Donc toi, tant que tu ne repartages pas, tu n'es pas dans l'illégalité. Le problème du peer-to-peer, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils repartagent en même temps qu'ils le téléchargent. Sur des fichiers en torrent, tu repartages tout ce que tu reçois. Mais enfin, encore que ça dépend de ta configuration de ton logiciel de téléchargement. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Tu arrêtes un peu de faire des petits bruits en arrière-fond quand on se demande ce que c'est.
C'est fini.
Donc, alors que je dis des trucs hyper importants.
C'est vrai.
Bon, voilà. Mais cette question-là, par exemple, c'est pareil. C'est d'ailleurs pour ça qu'Adopi avait pris le parti chez nous de faire une réponse graduée en disant que ce n'était pas forcément les mêmes personnes, pas les personnes qu'on arrivait à cibler qui étaient réellement les téléchargeurs. Et que tout de suite les mettre en justice, ça serait peut-être beaucoup de bruit pour rien et beaucoup de frais pour rien. Mais pour se retrouver avec des gens qui disaient c'est pas moi, en fait, mon voisin qui m'a piraté mon wifi,
d'ailleurs,
mon fils qui m'a
c'est
fait c'est
pour ça que
ma fille.
La qualification, en fait, la qualification de l'infraction, ce n'est pas tu as téléchargé. C'est défaut de sécurisation de l'accès à Internet.
Ah oui, pour ceux qui dont
exactement.
Ils se sont fait... Oui, mais c'est pour ça qu'il y avait l'idée de.
Et c'est pour ça qu'il y a effectivement. Voilà, c'est mais le défaut qui est retenu, c'est défaut de sécurisation de l'accès à Internet. Ah ben c'est pas toi, mais s'en fiche, tu as pas mal, c'est toi, c'est ta responsabilité, t'as mal sécurisé.
C'est ça.
Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que je pense que c'est jamais arrivé pour l'instant, mais que un jour si on... ou alors c'est arrivé, mais on n'en parle pas trop. Mais un jour si je m'arrive, alors je ne télécharge pas, donc ça pourrait pas m'arriver, mais je pense pas. Mais si je reçois un courrier, je vais lui dire. Mais dans ce cas-là, quelles sont les préconisations pour sécuriser mon accès à Internet? Il n'en a pas.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place que vous...
Il n'y a pas de réponse.
Ou j'aurai un endroit où on me dirait il faut faire ça, 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 et là, c'est bon.
Pour pas que je sois arrêté par la police pour vol, il faut que je ne vole pas. C'est simple. Mais là, pour défaut de sécurisation d'accès Internet. Oui, mais comment je fais pour sécuriser mon accès Internet?
Est-ce que je suis un technicien capable de sécuriser mon accès Internet?
Mais et quels sont les
et du coup, est-ce que ce serait pas mon fournisseur d'accès Internet qui serait à mettre en procès ça parce peut... que c'est lui qui me fournit un service et il me fournit pas un service sécurisé?
Oui, mais dans ce cas-là, ça peut être ça pourrait être très préjudiciable pour l'internaute parce que ça pourrait dire que dans ce cas-là, ça pourrait légitimer la censure proactive d'un fournisseur d'accès par rapport à un protocole.
Mais le fait est
que c'est ma connexion Internet, c'est moi qui l'utilise. Tu ne peux pas mettre en défaut les sociétés d'autoroute parce qu'un Fanjo a roulé à 300 à l'heure et t'as fauché sur l'autoroute.
Oui, mais par contre, il y a une limitation de vitesse qui est facile à appliquer pour tout le monde. Il suffit de pas appuyer sur le champignon.
Mais il y a l'État a une, enfin, la loi, le cadre législatif, il est donné.
Oui.
Là,
c'est ça.
Ils disent, il faut sécuriser son accès, sinon tu te fais taper sur les doigts, mais.
Mais on ne sait pas de quelle manière.
De quelle manière?
Et quelle est la bonne manière? Et c'est vrai que quand je repense au RGPD, c'est pareil pour les DPO, les
délégués aux données personnelles.
Voilà, ils ont quand même des directives où on dit aux sociétés, en fait, vous devez faire attention aux données personnelles qui vous sont données, vous devez les sécuriser. Et il y a des directives très claires qui disent de telle et telle manière, vous devez pouvoir prouver que vous avez fait un maximum.
Oui,
et on entend bien qu'il peut y avoir des failles, mais avez mis ce que vous prouviez.
La réglementation s'applique avant tout à des gens qui sont censés être des professionnels.
Ah oui, là je parlais du RGPD pour les sociétés. Je disais que là il y avait quelque chose de clair sur lequel ils peuvent s'appuyer.
Si tu as, alors
c'est vrai que pour un
peut-être
qu'Antoine
tu pourras nous
différent.
Dire toi, mais si quand il y a, quand tu dans le cadre de données personnelles, tu as dans une boîte qui en fait la collecte, elle fournit un service, par exemple de carte de fidélité, elle doit sécuriser sa base de données clients, mais comme c'est son cœur de métier, elle doit être à même de trouver les réponses et de sécuriser au mieux.
Oui, il y a tout un tas de règles qui sont obligatoires à remplir avec un schéma des flux et effectivement sur le stockage, il y a tout un tas de sécurité à apporter. Et les entreprises doivent communiquer à leurs clients, en cas de demande, les informations relatives à justement à ces flux et à ces data qui peuvent être sur eux.
Mais ils sont aussi soumis. En fait, c'est the best effort. Ils doivent tout faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour la sécurité des données.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais là, dans le cas de la Hadopi,
mais s'il y a une attaque, on peut à un moment donné, s'ils prouvent qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu.
Oui.
Voilà.
C'est ce qu'on appelle le best. C'est le terme en anglais, c'est the best effort.
C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que pour des particuliers. T'as dit quoi?
L'effort maximal.
Oui.
Ouais, mais c'est moche.
Non, c'est pas moche. La langue française est belle. Fais-toi plaisir à l'utiliser. Pardon. Oui, pour les particuliers, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas affaire à des professionnels.
Effectivement, tu t'en as. Donc, et puis même pour un professionnel, il te dit qu'il faut que ce soit sécurisé. Mais comment? C'est-à-dire que moi, je peux vous prouver que j'ai un mot de passe fort avec un chiffrement. Mais du coup, ah oui, mais ça a quand même téléchargé. Ah oui, c'est peut-être pas moi. Et du coup, voilà.
Oui, mais tu as sécurisé. Du coup, il n'y a pas le côté best effort aussi pour le particulier.
La sécurité zéro n'existe pas.
C'est ça.
Oui, ça.
Le risque zéro en termes de sécurité n'existe pas.
Oui, c'est pour ça que du coup, dans le RGPD, ils
donc
ont dit best effort.
C'est pour ça que
l'effort maximum et pas autre chose.
Je ne sais pas si les gens qui savent se défendre se sont bien défendus en amenant des courriers, par exemple, qui mettent un peu la Hadopi face à ces contradictions et du coup, qui n'ont pas été inquiétés. Ou alors si les gens ont fait appel à des cabinets d'avocats qui ont réglé les problèmes sans aucun. Mais effectivement, on n'a jamais eu de.
Qu'ils ont coupé leur Wi-Fi.
Non, je pense que les gens qui se sont fait. Les gens qui ont été en procès, c'est des gens qui n'ont pas été bien conseillés, qui sont. Moi, je l'ai vu sur Next Impact relater un procès, en fait, il y a quelques temps de ça déjà, où on comprenait bien que la personne ne savait même pas de quoi elle parlait, ne savait même pas pourquoi elle était là.
C'est savais même pas qu'elle avait un wifi à la maison.
Mais je pense qu'effectivement, leur législation, pour en venir à la DOPI, telle qu'elle est faite, de toute façon, rien que le défaut qui est la caractérisation du coup de l'infraction qui a été choisie est bancale à la base. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et elle tombe facilement.
Excuse-moi, j'ai Dupont qui faisait des blagues. J'ai pas comme pu, d'habitude. Mais j'ai entendu la fin de ce que tu as dit, mais j'ai pas de réaction.
Du coup, ça nous amène à notre deuxième sujet au niveau du RGPD. Ça concerne aussi les DPO. C'est le petit scandale qui a été révélé par Aeris. Aeris est un activiste, un crypto-terroriste tel qu'il se définit sur la toile, qui du coup, suite à un article de Libération qui se vantait haut et fort d'avoir enlevé les trackers publicitaires pour leurs abonnés, a quand même été un petit peu fouillé. Et là, il a trouvé une pratique qui est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Une boîte qui fournit à Libération des analyses de l'analytique, en fait, des analyses de visites, etc. Et une boîte qui s'appelle du coup Eulerian a trouvé une technique qui est pour l'instant un petit peu imparable au niveau des bloqueurs de publicité. Ils utilisent en fait un CNAME, alors je reviendrai sur ce que c'est exactement, un CNAME de Libération qui va pointer sur leur serveur à eux, sur serveur 1.eulerian.net par exemple, ce qui rend la détection de trackers, pisteurs, voilà, on va
on est fatigué.
De pisteurs.
Ah, tu vois quelle langue française est belle et que tu aimes l'utiliser.
Très très difficile. Alors qu'est-ce que c'est qu'un CNAME? Imaginons un sous-domaine qui s'appellerait par exemple s1.libération.fr. Dans l'enregistrement DNS, pour rappel, un DNS est un service qui transforme le nom de domaine libération.fr ou s1.libération.fr en adresse IP. On peut définir un genre d'alias. C'est-à-dire que je vais dire que, en fait, s1.libération.net, il pointe vers un autre enregistrement nom de domaine qui est tracker.eulerian.net. Et par cette sombre méthode, en fait, vous pensez avoir affaire à un site de libération.fr et en fait, pas du tout. Vous avez des données qui partent sur eulerian.fr, ce qui n'est pas sans poser des soucis. Le premier, c'est que du coup, avec les bloqueurs de publicité, on ne peut pas bloquer le domaine parce qu'on n'accède pas vraiment au domaine eulerian.net. On accède au domaine libération.fr. Le second, c'est que du coup, vous êtes pisté dès que vous arrivez sur le site. Très difficile d'utiliser un cookie pour dire non, je ne veux pas être pisté. Vous êtes déjà sur le site de Libération. La troisième, et non point des moindres, c'est-à-dire que suivant comment est configuré le site internet, en fait, le domaine en général et les cookies plus précisément, il est tout à fait possible que votre cookie de session, qui vous permet de vous identifier sur la plateforme libération.fr, soit exfiltré par Eulerian qui se retrouve directement sur leur serveur. Du coup, pour Libération, gros avantage, ils ne perdent plus aucune visite. Ils savent exactement qui vient, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils regardent. Et pour Eulerian, avec en plus ils arrivent à récupérer le cookie de session, ils peuvent avoir effectivement des données extrêmement précises, mais surtout faire de l'usurpation d'identité. Donc cette pause, ce n'est pas, comme je dis, sans poser certains problèmes. Voilà, c'est, je suppose, le thème que tu voulais aussi aborder, Duponin.
C'est ça, je voulais parler de ça, mais tu m'as devancé sur ce sujet, donc bravo à toi, c'était très bien, merci de ton intervention.
Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça, Tono? Non. Non, Tono, il veut pas intervenir à la radio.
Attends, moi, j'essaye de comprendre, là. Vous me dites, je vais sur le site de Libération lire un article.
Oui.
On est bien d'accord. Sauf que je suis pas sur le site de Libération.
Si, tu es sur le site de Libération, mais... tu as un bloqueur de publicité. Ouais. Ton bloqueur est de pisteur. Oui. Ton bloqueur, il est réglé pour certains domaines. Par exemple, ton pisteur, il va dire non, tu envoies aucune. Dès que quelque chose est demandé sur le site de Libération qui vient de Facebook, tu ne le prends pas en compte.
Mais donc, les riens, ils sont pas dans mon truc de bloqueur.
Et là, ils le sont. C'est ça, ils le sont. Mais comme ils ont fait un alias, comme Libération, ils ont fait en sorte que Libération fasse un alias de leur domaine vers le site Eulerian, ça se fait de façon transparente. Ton navigateur croit parler à Libération sur un sous-domaine. Hein.
Non mais alors du coup ça pose deux questions. Un, Libération est au courant.
Bien sûr, c'est eux qui l'ont installé.
Deux, quand tu configures tes cookies sur le site de Libération, puisque aujourd'hui ils sont obligés de demander à ce qu'on configure nos cookies, les cookies, les traceurs, il y a une grosse différence ou...
Mais
non, ça a rien à voir avec les cookies.
Ils te demandent si tu veux accepter ou pas les cookies.
Mais oui, c'est bien ça. Et tu peux configurer ce que tu veux accepter comme cookie ou pas. Donc souvent les cookies tiers.
C'est ce que demande la CNIL, mais dans la réalité, c'est pas vraiment. C'est pas
ah ben je sais que c'est pas appliqué. Même le gouvernement ne l'applique pas. C'est j'accepte ou rien. Et la CNIL d'ailleurs doit enfin d'ici un an, tout le monde doit mettre au moins un je refuse ou j'accepte. Mais aujourd'hui sur les sites du gouvernement, tu n'as pas je refuse, t'acceptes.
Mais parce que ça pose d'autres problèmes techniques. Aujourd'hui, pour dire je refuse ou j'accepte, il faut poser un cookie.
Ben oui, je sais. Donc... Je sais, j'explique ça aux personnes de mes ateliers. C'est bloquant. Ça veut dire j'accepte de recevoir un cookie qui tiens, garde en mémoire si j'accepte ou si je refuse.
Oui, mais normalement, ce cookie ne doit pas être relié à une session. Enfin, techniquement, c'est possible de faire en sorte que ce cookie ne puisse pas être relié à une session, c'est-à-dire à un échange de données qui a déjà eu lieu. Il est complètement impersonnel.
La difficulté sur les sites de presse, consulter et avoir un minimum de statistiques par rapport aux visiteurs qui viennent, ils sont obligés d'instancier une régie de statistiques à la Google Analytics ou Xity. Et donc, si cette notion de publicité apparaît après le consentement de l'utilisateur, ils perdent énormément de statistiques. Donc, ils ne sont pas capables de pouvoir vendre facilement de la publicité derrière. Donc, aujourd'hui, respecter ça pour des professionnels qui font beaucoup de trafic et qui vivent de la publicité ou qui vivent en partie leur modèle économique basé sur la publicité, c'est très compliqué de rajouter
un
bandeau qui interdit, en tout cas, le dépôt de cookies lié à des statistiques avant d'avoir le consentement d'utilisateur.
Sur leur site, l'Ariane, j'ai pas le chiffre exact, mais ils annonçaient que les sites regagnaient 30% de statistiques supplémentaires avec leur méthode.
Mais en fait, on peut poser le problème différemment. Le web a été complètement pourri par tout ce qui est publicitaire et marketing par leurs mauvaises pratiques depuis des années, avec des vidéos qui se lancent automatiquement,
prennent toute la page,
des autonomies d'ordinateurs portables qui ont été amputées de plus de 25% parfois parce que c'est des trucs animés, des vidéos qui se lancent automatiquement, enfin des trucs...
ordinateurs qui plantaient, qui gelaient parce que la page leur demandait trop d'efforts.
Et du coup, ces gens-là ont pourri le web. Certains journaux ont scié la branche sur laquelle ils ont été, ils sont assis parce que sous couvert de pendant un temps gagner beaucoup plus d'argent avec des régies pubs beaucoup plus invasives, ont bradé la vie privée des personnes. Et du coup, les gens ont trouvé des parades, ils essaient de trouver d'autres parades et c'est eux au final qui vont y perdre encore des plumes.
Faut pas aller bien loin, hein. Il suffit juste les sites qui utilisent Facebook. On utilise tracker Facebook, il y en a énormément. Donc il suffit juste d'avoir un compte Facebook ouvert et de naviguer sur Internet. Je pense qu'il y a facilement un site sur deux qui est capable d'envoyer le tracker Facebook pour dire à Facebook telle personne a visité tel site.
Et en Belgique, c'était reconnu comme le site était en tort de mettre le tracker Facebook sur son site. Et les internautes pouvaient porter plainte.
Mais du coup, on assiste à une véritable escalade des moyens par. Et là, c'est très.
Mais il reste dans l'illégalité. Parce que si l'internaute, dans le cookie, a dit je refuse les cookies statistiques, enfin là, on est en train de juste lui faire. C'est pas comme Google qui dit je contourne. Enfin, il contourne pas la loi. Il dit j'applique la loi, je vais pas mettre le logo de presse pour pouvoir quand même. C'est pas ça, c'est carrément, du coup, on vous fait croire que vous êtes chez nous, mais vous n'êtes pas chez nous. C'est quand même de la fraude. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait un effet quand même.
C'est complètement, c'est détourner un système. Après, Internet a été construit comme ça. Il ne faut pas oublier que tous les protocoles qui régissent Internet sont des protocoles qui datent des années 60, où les gens qui étaient sur Internet, c'était les bisounours.
Bah oui.
Sauf que les protocoles n'ont pas évolué. Enfin, on a rajouté des couches de sécurisation, typiquement le HTTP qui existe depuis la fin des années 70, au début des années 80. On a rajouté dessus du TLS, mais ça reste un protocole de bisounours. Ethernet reste un protocole de bisounours. J'annonce, c'est moi, je suis telle personne. Il est très facile d'usurper l'identité d'une adresse MAC sur un réseau réseau Ethernet. On rajoute derrière des protocoles et là, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'ils se sont servis de faiblesses, notamment du DNS, avec la possibilité d'utiliser les champs CNAME pour pouvoir faire quelque chose, effectivement, de, c'est, on pourrait voir ça comme de l'usurpation d'identité. Je me fais passer pour un serveur de libération, bah oui, alors que je ne suis pas du tout un serveur pour libération.
Moi, je trouve ça. Et, alors, du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que, en fait, c'est pas lié aux cookies, c'est carrément moi, ma configuration de mon navigateur web où je lui ai dit de refuser tous les trackers tiers, forcément, là, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il ne considérera pas que c'est un tracker tiers.
Et non, parce qu'il va parce que le code JavaScript, qui en plus, ils ont des méthodes Eulerian, pour l'instant, qui a été bien disséquée par Iris. Ils ont des vraies méthodes de voyous. Ils ont des trackers JavaScript qui utilisent pour se charger, pour trouver les noms de fichiers, qui utilisent l'heure, la date. Ils changent de méthode tout le temps. Enfin, ils ont certains noms, en fonction de leurs clients. Les sous-domaines changent. Ils ont vraiment trouvé des méthodes de voyous pour.
Il faut visiter les sites sans JavaScript.
Ouais, c'est. Mais du coup.
Il faut avoir des bloqueurs de JavaScript. Mais c'est ça que tu veux dire.
Du coup, moi, j'en suis venu. J'ai une conf. J'utilise une extension qui s'appelle UMatrix qui permet de tout bloquer, mais vraiment tout par sous-domaine, etc. Et j'en suis venu à refaire ma conf de zéro pour choisir exactement qui charge quoi à quel endroit. UMatrix permet de me dire sur tel sous-domaine je charge le JavaScript, mais pas sur l'autre. Sur celui-là, je vais gérer le. Alors c'est très long au départ à configurer. Hein. Je passe beaucoup de temps à dire oui, ça je veux pas. Mais c'est la seule solution que l'on a pour l'instant pour se prémunir de ce genre de choses.
Un signe bien fait, normalement. Qui est accessible ne devrait marcher sans avoir besoin d'avoir le JavaScript activé.
Ah oui, mais alors
on perd une couche d'animation visuelle éventuellement, mais on gagne en accessibilité.
Oui, mais de l'animation d'ailleurs, on se retrouve même avec des sites qui sont générés uniquement en JavaScript.
Du coup,
il y a 90%.
Oui, mais ils ne sont pas accessibles.
Oui, c'est ce que j'allais dire. L'intérêt, c'est la question de l'accessibilité.
90% des sites internet ne fonctionnent plus du tout sans JavaScript. Moi, je le vois. C'est-à-dire que même Google, le moteur de recherche, tu te connectes dessus, tu as un gros point, juste un point, une grosse image en fait qui doit faire partie d'un sprite d'image, et tu as un gros point au milieu et c'est tout. Et il faut activer le JavaScript pour que ça marche. Tout le web est basé sur le JavaScript maintenant.
D'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais à propos de UMatrix, même avec UMatrix activé, la méthode de Larian fonctionne parce que souvent les domaines qui sont utilisés sont cachés et
sont pas forcément
explicites et tu peux te faire embrouiller. Il faut connaître le domaine à l'avance.
Mais en général, il y a des noms, il y a des trucs bizarres comme là par exemple, c'est vfs@libération.fr et il charge juste un JavaScript. Tu te dis dans la méthode que j'applique moi dans UMatrix, c'est que je vais déjà activer le CSS et les images sur un domaine, sur le domaine principal. Et ensuite, après, c'est une mécanique qui rentre, mais
oui, t'inquiète pas, je l'utilise.
Mais tu ne fais que certains trucs, mais effectivement, c'est un peu compliqué.
Et c'est pas donné à tout le monde.
Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, quand même, parce qu'il y en a une, c'est que du coup, Iris a ouvert un bug sur la page du projet GitHub de uBlock Origin, et qu'ils sont en train de trouver une solution, notamment.
Ils ont trouvé une solution en utilisant,
effectivement la résolution de nom DNS, une espèce de dig qui permettra de voir s'il y a un CNAME ou pas derrière et dans ce cas-là, de le désactiver.
Alors très bien, pour nous qui avons uBlock Origin, ça résout le problème. Il n'empêche qu'en termes légal, je trouverais intéressant que ce soit quand même porté. Une autre chose, c'est quand même cette histoire d'accessibilité qui m'intéresse aussi. Le JavaScript et accessibilité, mais ça fait deux sujets.
On va rester sur le problème des trackers. Donc,
en soi, aujourd'hui, c'est légal par rapport à RGPD. À partir du moment où il y a un consentement de l'utilisateur, il n'y a aucun souci pour faire ça.
Mais sauf qu'il n'y a pas le consentement. L'idée, c'est bien ça, si quelqu'un a décidé... Parce que tu vois, par exemple, le gouvernement, pour les cookies, ils ne te disent pas « je refuse ou j'accepte ». C'est « si vous ne souhaitez pas les cookies, allez configurer votre navigateur ». Voilà ce que vous dit le gouvernement. Donc ça veut dire qu'on considère que la configuration de ton navigateur, si tu refuses les cookies tiers, ça suffit pour entrer dans la légalité. Mais là, si moi j'ai configuré mon navigateur comme ça et que le site internet sur lequel je vais me la joue en douce, c'est plus des cookies tiers. Enfin,
ce qu'il faut voir quand même, c'est que
la loi elle dit si ce sont des cookies de navigation, tu as le droit de les poser. Si ce sont des cookies d'ordre publicitaire, il faut un consentement. Ça, c'est ce que dit la loi.
Ouais, il y a aussi si c'est un cookie d'identification aussi.
Identification. En fait, tout ce qui est pas, tout ce qui n'est pas cookie de navigation et qui ne sert pas juste à rien, en fait.
Tout ce qui est identification, tout voilà, ce qui exactement. Permet d'identifier.
Tout ça, c'est censé être sous consentement de l'utilisateur.
Oui, sauf que effectivement, dans la solution Ethereum, ce n'est pas vraiment le cas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand Iris... Alors, ce qui moi, m'a mis la puce à l'oreille, c'est que Iris a contacté la boîte Ethereum, du coup, et l'a fait un courrier comme il sait très bien les faire. Le CTO... a répondu un jour férié.
Le responsable technique.
Hein, le responsable oui, c'est ça. C'est le responsable technique a répondu genre dans l'heure. Donc d'après moi, si parce que pour l'affaire, elle n'est pas encore très ébruitée, on n'en parle pas beaucoup. Si du fin fond de Mastodon, réseau social décentralisé. Machin,
sur lequel nous sommes présents.
Voilà, sur lequel nous sommes présents. Si un activiste un peu envoie à une boîte et qu'on lui répond aussi vite en essayant de se dédouaner un petit peu.
Une réponse assez conséquente.
Conséquente, c'est que d'après moi, les mecs sont pas tranquilles non plus.
Et qui se veut rassurante.
Oui.
Ouais, mais ça, c'est le côté RGPD. Enfin, ils ont tendance à réagir un peu vite, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas tranquille, le RGPD est assez complexe, on va dire, pour que tu te dises que, mais si ça passe, enfin, et que ce soit pas si.
Je sais pas. Si le mec, il a répondu aussi vite, et c'est pas le DPO, il a écrit au DPO, et c'est pas le DPO qui a répondu, c'est directement le directeur technique en disant qu'il aurait plus il aura plus d'informations avec le délégué aux données personnelles de cette boîte, parce qu'il a aussi demandé d'avoir accès à ces données, du coup. Et moi, je pense que c'est parce qu'ils sont... Je l'interprète, comme ça. Ils ne sont pas tranquilles. Mais ça... Oui, c'est l'heure. On arrive à l'heure. On va vous proposer un troisième morceau en attendant, sachant que de toute façon, on reparlera sûrement de ce sujet-là dans nos radios à venir. Nous allons vous proposer Trotsky Nautique de l'album Synthétiseur volume 1 et le morceau s'appelle Abat l'humanité. Voilà, sur Radio Girol et Radio Station Essence.
Bye.
Et nous voilà de retour pour les deux dernières minutes de notre émission de radio, parce que nous sommes déjà bien en retard et nous allons parler de jeux vidéo. Nous allons parler de deux petites choses. Nous allons parler d'un jeu qui est sorti sous Linux la semaine dernière, qui nous a été promis depuis quelque temps déjà, par Feral Interactive. Alors vous connaissez sûrement Feral Interactive si vous avez déjà écouté quelques-unes de nos émissions auparavant. Feral est une boîte qui porte des jeux sous Linux et macOS, et aussi maintenant sur Nintendo Switch. Je pense que l'habitude d'utiliser Vulkan comme API graphique aide. Et ils nous ont du coup porté Shadow of the Tomb Raider, le troisième volet de la trilogie Tomb Raider initiée en 2013, le reboot de la série. Et c'est plutôt pas mal. On voit vraiment qu'au niveau optimisation, ils font des efforts et qu'ils maîtrisent de plus en plus Vulkan et que, effectivement, comme ça nous était promis, Vulkan est une API graphique très prometteuse. Parce que leur wrapper, qui permet de du coup transformer les appels DirectX 12, cette fois-ci en Vulkan, est très efficace. On note une baisse de performance allant de 2 à 17% suivant les configurations testées, ce qui est très peu, qui est une excellente chose. Alors j'ai commencé un petit peu à tester le jeu. Il est de même acabit que les autres. Pour l'instant, il se situerait au niveau plaisir de jouer entre le premier opus, que j'ai vraiment trouvé excellent, et le second opus, que j'ai trouvé très bon, mais qui était un peu moins... Je sais pas, il y avait un peu moins d'entrain, peut-être un peu moins de découverte. Là, c'est plutôt pas mal. On assiste à une première set qui est assez impressionnante. Mais je suis vraiment qu'au tout début. Donc, c'est un... voilà. La deuxième info, c'est la sortie du Google Stadia. On en a déjà peut-être parlé. Google Stadia est une plateforme de streaming de jeux vidéo. Plus besoin du coup d'avoir un ordinateur surpuissant chez vous.
Stadia.
Excusez-moi, c'est Stadia. Autant pour moi. Merci du coup, Lucas. Vous pouvez du coup acheter un abonnement, prendre un abonnement chez Google pour pouvoir streamer vos jeux, même sur une tablette, sur téléphone, sur votre télévision connectée, pourquoi pas. Alors pourquoi on parle de service privateur tel que ça ici chez nous ? Eh bien tout simplement parce que Google a une puissance de feu énorme, donc même si on a vu par le passé avec Google Wave, et toi nous c'est de quoi je parle, et, ou Google Plus, qu'ils peuvent se planter royalement, ils en sont capables aussi, hein. Ce n'est pas elle n'est pas omnisciente, omnipotente comme société Google.
Non, par contre ils font vraiment des tonnes de trucs, enfin, Alphabet ouais. Et les entreprises liées à Alphabet font vraiment des
c'est
trucs
ça.
De ouf.
Mais du coup la base en fait c'est qu'ils se servent de Linux et de Debian Linux et de Vulkan comme API graphique pour pouvoir proposer leurs jeux en streaming, sachant que pour moi ce n'est pas quelque chose en tant que gamer, hardcore gamer, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que vous devez en plus acheter les jeux. Vous achetez le pass pour accéder au service de streaming et c'est à vous d'acheter les jeux ensuite. Donc, qu'arrive-t-il quand on coupe son accès à Google Stadia, puisque c'est pas Steam, hein, je sais pas trop. Donc, pour moi, ce n'est pas intéressant.
Mais le service fonctionne pas. C'est comme tous les trucs en service, comme ça en ligne. Exactement. On sait toujours, quand le service fonctionne pas, il te rembourse rarement le jeu. Hein.
C'est ça.
Donc, ou il te le donne pas pour l'installer chez toi si t'as envie.
Exactement. Hein. Donc, ça peut poser problème. Ce qui est par contre intéressant, c'est que effectivement, les éditeurs sont obligés de s'y mettre. Et on voit des éditeurs qui proposent des compatibilités pour Google Stadia qui ne l'ont jamais fait auparavant pour Linux, notamment Rockstar Games avec Red Dead Redemption 2 qui vient de sortir, qui ne fonctionne toujours pas avec Proton pour l'instant, mais qui utilise comme API graphique Vulkan et non pas DirectX pour pouvoir, je suppose, être compatible avec Google Stadia.
Parce que Stadia est basé sous Linux. Moi j'ai dû baser un mot de ce que tu as dit.
C'est Debian Linux et tout est basé sur Vulkan en API graphique.
Ce que j'aime beaucoup avec Google Stadia, j'ai lu un article à ce propos où Google se vantait de pouvoir espérer atteindre les délais de latence minimale avec Stadia, comme ça passe par Internet, il y a une latence qui est inhérente. Et ce principe, pour pouvoir réduire au maximum la latence, c'est de pouvoir apprendre comment le joueur joue sur les jeux et anticiper les actions qu'il va faire avant qu'il les fasse.
C'est
assez intéressant. Je trouve ça assez particulier comme annonce.
Effectivement. Mais j'avais vu quelque chose en ce sens-là. Donc du coup, à voir. Je ne pense pas que ça ait des bénéfices directs pour nous en tant que joueurs sous Linux.
pour la simple et bonne raison que les éditeurs continueront à se fichre complètement d'un petit parc de machines et d'illuminés qui tentent de jouer sur l'OS du manchot. Mais par contre, on va voir des jeux, notamment Red Dead Redemption, qui utilisent Vulkan en API graphique dans leur version Windows aussi, et du coup, qui pourront être plus facilement installables, jouables via des outils comme Proton, Wine en fait.
Et autant, oui. C'est bien.
Rappelez-vous que pour ceux qui utilisent déjà, qui ont déjà joué à soit la série des Wolfenstein, enfin Youngblood notamment, ou The New Order, ils utilisent Vulkan comme API graphique. C'est un jeu qui tourne même mieux sous Linux via Wine que sous Windows. Doom 2016 utilise aussi Vulkan comme API graphique, qui marche très bien sur Linux. Strange Brigade, qui est aussi un jeu qui utilise Vulkan en API graphique, fonctionne très bien sous Linux via Steam Proton ou via Wine, et du coup qui installe facilement avec Lutris. Donc il y a des choses, ça peut apporter du bon, à voir ce que ça donnera.
Oui.
Du coup, nous allons quitter.
Vous faire des gros bisous.
Exactement, ouais. Parce que nous avons exactement 11 minutes. Vous voyez, les 2 minutes se sont un petit peu éternisées. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain. Nous serons au mois de décembre. Nous fêterons peut-être Noël ou pas en avance.
On a raté le Girol Horror Picture Show.
C'est ça. Effectivement, oui. Nous donnons rendez-vous le jeudi 12 décembre sur Radio Station Essence et sur Radio Girol. Apparemment, nos podcasts vont être rediffusés par une web radio à Toulouse, une web radio qui a monté un...
Une web radio ou une radio une radio, radio.
Je ne sais pas exactement.
Ou une radio FM.
J'ai compris, moi, que c'était une web radio, mais peut-être que c'est une radio FM, mais ça peut être assez intéressant.
Mais on n'est plus sur ondes courtes.
Et on est aussi sur ondes courtes.
Ah.
Et parce qu'on nous a contactés, la personne qui gère la web radio à Toulouse nous a contactés via ondes courtes. Donc ça peut être très très intéressant. En attendant, vous pouvez toujours venir aux ateliers. C'est toujours le jeudi de 18h à 20h30 au centre d'animation Saint-Pierre au 4 rue du Mulet.
Je nous oublie tout le temps dans l'agenda.
Sachant qu'on a décidé un petit peu de se sortir les doigts, on va vous proposer bientôt des ateliers, on espère. On va travailler sur ça.
Ça
devrait pas tarder. On va reprendre un peu des bonnes habitudes et avancer un petit peu, mais on vous tiendra au courant en temps et en heure, soit sur notre site girol.org.
Si, il y a www. Sinon, on nous fait une crise de trucs pas. De sécurité.
C'est ça,
il
va falloir que je gère
vous
ça.
Vous savez le traduire ce que je suis en train de dire.
Les certificats.
Merci.
Sur www.girol.org, sur Mastodon, sur tout.kilonet.net et le c'est Girol.
Et sur Framasphère.
Et sur Framasphère.
Sphère.
À Girol. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Salut.
Et bisous.